À 22h37, Patrick Harrington mourut. La nouvelle mit Didi d'une humeur de chien. L'intéressé lui-même ne devait pas être aux anges. Didi était à son bureau. Pas en train de répondre au coup de fil de Chip, pas en train d'envisager un bon petit dîner avec Alex. C'était vendredi soir et elle faisait ce qu'elle faisait inévitablement de ses soirées. Elle épluchait une pile de rapports pour essayer de comprendre ce qui s'était passé un soir à Dorchester et qui avait laissé, donc, 5 morts. Preuve matérielle mise à part, Didi aurait bien parié sur le gamin. Elle ne savait pas pourquoi. Son passé mouvementé, les mouvements psychotiques, son habitude de trucider les écureuils et de lécher leur sang sur ses mains. S'il devait choisir son meurtrier, elle voterait pour Rhodes Harrington. D'ailleurs, elle eut une illumination à propos des derniers mots de Patrick Harrington. Et s'il n'avait pas dit « garce », comme l'avait supposé l'infirmière des urgences, mais « garçon ». Pas une accusation contre sa femme, mais une tentative pour désigner le coupable dans son dernier souffle. Tout cela lui paraissait bel et bon, jusqu'à ce qu'elle se repenche sur la scène de crime. Fait numéro 1. Celui qui avait porté les coups meurtriers mesurait très probablement plus d'1,65 m. Fait numéro 2. Odzi n'avait pas franchement pu se trancher la gorge dans la chambre de sa sœur et ensuite se transporter lui-même dans la véranda grillagée. Fait numéro 3. D'après l'infirmière en psychiatrie Danielle Burton, la première crise psychotique d'Odzi s'était soldée par un saccage tous azimuts. Au contraire, la scène de crime chez les Harrington était de nature méthodique. Pas le fait d'un enfant pris de folie furieuse. Plutôt d'un individu qui avait systématiquement traqué chacun des membres d'une famille. Ce qui la ramenait à Patrick Harrington. Une bonne âme. Qui avait essayé d'installer sa famille dans un meilleur quartier, de tirer d'affaire un enfant perturbé, de réussir son deuxième mariage avec une famille recomposée, et qui avait ensuite perdu son travail, pris du retard dans ses travaux, vu son fils adoptif exterminer les rongeurs du quartier. Peut-être que la tension était montée devant le fossé grandissant entre ce qui aurait dû être sa vie et ce qu'elle était en train de devenir. Peut-être que la tension était montée devant le fossé grandissant entre ce qu'aurait dû être la vie et ce qu'elle était en train de devenir. Impossible de sauver le monde, dans ce cas, il le quitte et emporte avec lui ses amours innocentes. Un raisonnement qui aurait été recevable aux yeux de Didi et aux yeux d'un jury d'accusation. Sauf que Phil et Alex avaient inspecté les deux étages supérieurs de la maison des Harrington et que, de leur point de vue, Patrick n'en avait plus que pour quelques jours de travaux. Devant cette révélation, ils avaient feuilleté le Boston Globe et, de fait, Patrick y avait passé une petite annonce, parue le matin même. Donc, le type prend enfin des dispositions pour louer les deux étages supérieurs et là, il décide « Oh, puis merde, je ne vais même pas laisser un week-end à un locataire potentiel pour se manifester, je vais tuer tout le monde ce soir. » Un coup de tête, ne cessait de lui répéter Alex. Un coup de tête. Didi n'était pas convaincue. Elle venait de se farcir 8 témoignages sur les victimes et tous sans exception s'accordaient sur la grande intégrité de Patrick. Comment le solide père de famille se serait-il transformé en moins de 5 minutes en meurtrier qui supprime tous ses proches sur un coup de tête? Zut, elle avait envie d'une pizza au pepperoni. En fait, elle avait envie de sexe. Sur son bureau, ce serait parfait. Pousser les papiers sur le côté, jeter les dossiers par terre, enlever son jean, arracher la chemise bleue à mi-donnée d'Alex et lâcher les chevaux. Il lui faisait l'effet d'un homme qui serait à la fois patient et fougueux. Ça lui plairait, ça. Patient et fougueux. Ça lui plairait que ses doigts d'homme puissants lui agrippent les fesses. De se sentir pilonné par un corps aux muscles d'acier. Ça lui plairait de cesser un instant d'être le commandant Didi Warren, super flic, pour être une femme. Est-ce que c'était l'effet de l'horloge biologique sur les femmes? Elle leur grillait les neurones, leur enlevait toute déontologie, les rendait idiotes? Elle n'allait pas se marier, pas avoir d'enfant, pas faire l'amour dans son bureau. Alors autant lire ses conneries de rapport parce que c'était ça, sa vie. C'était ce qui lui restait. 5 morts à Dorchester et plus de survivants pour raconter. Elle résista encore 10 minutes avant de tout envoyer balader et de prendre le chemin de la maison. C'était l'heure d'une douche froide, d'un plat chinois réchauffé et d'une bonne nuit de sommeil. Elle s'engageait sur la I-93 lorsque son portable sonna. Elle le prit avec irritation et répondit sèchement. C'était Phil. Il n'avait pas une bonne voix. On en a une autre. Une autre quoi ? Famille. Morte. L'homme a pris une balle entre les deux yeux. Amène-toi, Didi. Et apporte ton Vix. Didi n'était pas trop cliente des pommades et autres boulettes de coton parfumées quand elle travaillait sur une scène de crime. Certains agents se passaient du jus de citron sur les mains et se les mettaient sur le nez. D'autres mâchaient un demi-paquet de chewing-gum à la menthe en jurant que flinguer leurs papilles inhibait leur sens olfactif. Didi en tenait pour les méthodes traditionnelles. Elle pensait que pour analyser de manière efficace une scène de crime, il fallait être en possession de tous ses sens, y compris l'odorat. Elle regretta son professionnalisme à l'instant même où elle franchit la porte. « Qu'est-ce que c'est que cette merde ?» lâcha-t-elle en se couvrant immédiatement la bouche et le nez d'une main, tandis que de l'autre, elle chassait une mouche. Alex Wilson se trouvait dans le minuscule salon. En un geste proche de l'héroïsme, il lui tendit son mouchoir. Didi avait les yeux qui larmoyaient, mais elle déclina l'offre. « Quel merdier !» marmonna-t-elle. Toujours sur le pas de la porte, elle essayait de prendre ses repères tout en maîtrisant un haut-le-cœur. L'endroit ressemblait à un dépotoir. Le sol à ses pieds était noyé sous les détritus. Elle vit des emballages de cheeseburgers graisseux, des barquettes de frites McDonald's vides, des mouchoirs en papier et, quelle horreur, une couche sale. À ce moment-là, la couche se mit à bouger et le plus gros cafard du monde fila sur la moquette marronasse avant de disparaître sous une boîte à pizza ouverte et parsemée de pépéroni verdâtre. Bordel de merde. Didi repassa la porte, descendit les marches du perron et retourna en lisière de la propriété où elle s'adjura de ne pas vomir devant les agents de l'identité judiciaire et encore moins devant les journalistes du coin. Elle avait les larmes aux yeux. Il lui fallut plusieurs grandes bouffées d'air imprégnées de pluie pour calmer son estomac. Elle venait de se redresser et de se retourner vers la maison pour envisager le deuxième round, lorsqu'elle aperçut, au bout de l'allée, Bobby Dodge qui passait sous le ruban jaune de scène de crime. À choisir entre faire des claquettes avec un cafard ou se colter avec un enquêteur de la police d'État du Massachusetts, elle se dirigea droit vers le policier d'État, qui se trouvait aussi être son ancien petit ami. Et un homme heureux en ménage. Ma scène de crime, revendiqua Didi en guise de bienvenue. Toutes mes excuses, répondit Didi avec décontraction. Il se connaissait trop longue date pour qu'il se sente jamais sérieusement insulté. Ce qui agaçait Didi. L'averse tombée 3 heures plus tôt avait enfin fait redescendre la température vers les 25 degrés. L'air était quand même moite, et Bobby portait sa veste sport sur son bras droit, laissant voir une chemisette bleue foncée sur laquelle était brodé l'insigne doré de la police d'État. « Qu'est-ce que tu fous là ?» demanda Didi. « J'ai vu de la lumière ?» essaya-t-il avec un grand sourire. Il était craquant quand il souriait, et il le savait. « Tu n'as pas un bébé dont tu dois t'occuper ?»« Karina Liliane, » répondit-il tout de suite en extirpant une photo de sa poche arrière. « 4,860 kg. Hein, qu'elle est belle !» Il se rapprocha d'un des lampadaires et éteint la photo 9x13 sous la lumière. Didi vit de grosses joues rouges, de petits yeux plissés et un crâne en pain de sucre. « C'est tout ton portrait, » lui assura-t-elle. « Naissance par voix basse, » proclama-t-il fièrement. Rien qu'à l'idée, Didi se dit qu'elle ne referait plus jamais l'amour. « Et Annabelle ? » demanda-t-elle pour prendre des nouvelles de l'épouse de Bobby. Elle donne le sein comme une championne et commence à caler la petite sur des horaires sympas. Toute la famille va bien. Et toi ?
Je ne donne pas le sein comme une championne. Il y en a qui perdent quelque chose.
Qu'est-ce que tu fais sur ma scène de crime ?
Peut-être un lien avec une de nos affaires.
Ah, mais c'est ma circonscription. Raison pour laquelle je pensais qu'on pourrait faire un tour ensemble.
Je t'en prie, tu espérais que je serais pas encore là et que tu pourrais te promener à ta guise. Je passe au plan B. Reconnut Bobby.
C'est quoi ton affaire ?
Marijuana.
Trafic ? Et importation, on pense.
Elle fit la grimace, l'observa.
Tu imagines un règlement de compte ?
J'espérais faire un tour, histoire de voir si ça évoque un règlement de compte.
Toute une famille, tu sais.
C'est ce qu'on m'a dit. Beaucoup de morts pour de la marijuana. Pour de la messe, ok. De l'héroïne, pas de problème. Mais les dealers de shit... préfèrent un autre genre de bang-bang, je sais. Une plaisanterie entre collègues. Fallait bien que les policiers rient de quelque chose. D'accord, lui concéda Didi. Tu peux te joindre à nous. Mais je pense toujours que c'est ma scène. Alors tu as toujours toutes mes excuses. Didi arriva jusqu'au milieu du séjour, cette fois-ci. Alex ne s'y trouvait plus, mais il avait laissé une kyrielle de plots de signalement jaune dans son sillage. Didi se boucha le nez et prit de courtes inspirations par la bouche. Comme sa nausée revenait, elle se pinça l'avant-bras aussi fort que possible. La douleur prit le pas sur l'odeur, c'était déjà ça. À côté d'elle, Bobby ne disait plus rien. Il avait été tireur d'élite dans la police, et Didi avait toujours trouvé séduisante cette capacité qu'il avait de se mettre en retrait, d'être à la fois dans l'instant et en dehors. Elle le sentait comme un ressort tendu. Il était atterré, mais en bon policier, il canalisait sa rage. Au milieu du séjour infesté de cafards, un canapé en tissu écossais jaune et brun. Et couché sur le canapé en tissu écossais jaune et brun, le cadavre d'un homme blanc avec tout l'accoutrement du pseudo-rasta, bonnet en tricot multicolore compris. Fin de la vingtaine, début de la trentaine, estima Didi. Une douzaine de très longues dreadlocks, deux grands yeux bruns qui ne voyaient plus rien, et une petite blessure par balle au milieu du front. Son bras droit était rejeté en dehors du canapé vers le sol. Sous ses doigts inertes, sur un sac en papier qui contenait Dieu sait quoi, un pistolet à canon court, un 22, crut reconnaître Didi. Pas beaucoup de sang, fit remarquer Bobby. Sans doute absorbé par le canapé, marmonna Didi. Elle s'aperçut que le Kleenex en bouchon à un mètre d'elle bougeait et se demanda combien de règles du manuel du parfait enquêteur elle violerait si elle dégainait son Glock pour tirer sur le mouchoir. Un cafard en sortit, s'arrêta un instant, elle aurait juré qu'il les observait, et retournant à ses petites affaires de cafard, disparut sous un autre tas d'immondices. « Je me douche à l'eau de Javel dès que je rentre », grommela Didi entre ses dents. « Huile d'eucalyptus », lui conseilla Bobby. À verser directement dans le bain, ça marche à tous les coups. « Et ça fait la peau très douce », ajouta-t-il d'une voix de fausset. Didi secoua la tête. Elle se détourna de Monsieur Dreadlocks et, un peu désarmée devant ce tableau, s'enfonça plus avant dans la maison. La femme était morte dans la petite cuisine à côté du séjour. Le couteau, muni d'un manche recourbé noir comme ceux qui se trouvaient dans un bloc en bois sur le plan de travail, était encore planté dans son dos. Ce meurtre-là n'avait pas été sans bavure. Le sol crasseux était souillé de traînées rouges là où la femme avait essayé de ramper sur ses coudes. Elle n'avait parcouru que quelques dizaines de centimètres avant de succomber à sa blessure. La puanteur de la cuisine était pire que celle du séjour. Didi remarqua de la nourriture en décomposition dans l'évier, du lait tourné sur la table et des moisissures au coin du mur. Elle en avait vu des choses dans sa vie. Elle en avait entendu des choses. Mais elle ne comprenait toujours pas comment on pouvait vivre dans de telles conditions. À côté de la cuisine, l'unique salle de bain. La cabine de douche débordait d'ordures, y compris de bidons remplis d'un liquide jaune. Les toilettes étaient bouchées et ne semblaient pas fonctionner. Didi regarda les bidons d'un nouvel œil en regrettant de savoir ce qu'elle savait. Ils quittèrent la zone de la cuisine et prirent le couloir. Un jeune, dans les 16-17 ans, était étendu, bras et jambes écartés, devant la porte de la première chambre. Il avait apparemment pris deux balles. La première dans la cuisse, la deuxième avait été la bonne, un trou tout rond, 2 centimètres au-dessus de l'œil gauche. Dans la chambre, Alex était penché sur le corps d'une adolescente. Elle portait un short et un débardeur. Elle dormait manifestement dans le lit une place quand elle avait repoussé le drap du dessus, peut-être en entendant du bruit dans le couloir. Elle venait de s'asseoir lorsque la balle l'avait atteinte au-dessus de l'œil droit. Elle était retombée sur le côté, le poing encore serré sur le drap rose taché. Cette pièce était plus propre, constata Didi. Incroyablement exiguë, mais plus propre. La fille avait peint des arabesques vertes et bleues sur les murs roses. Son refuge, songea Didi en remarquant une pile de livres de poche dans un coin. « Le troisième enfant est derrière moi, » signala Alex. « Un troisième enfant ?» Par terre. Didi et Bobby se décalèrent vers le pied du lit. De fait, dans l'intervalle d'un mètre qui séparait le bout du lit du mur extérieur, se trouvait un petit coussin, et sur le petit coussin, une enfant bien plus jeune, sans doute 3 ou 4 ans. Elle serrait une couverture miteuse entre ses doigts, son pouce encore dans la bouche. Elle aurait pu être en train de dormir si elle n'avait pas eu du sang sur la tempe gauche. « Elle ne s'est pas réveillée, » dit Alex d'une voix sourde et tendue. « On dirait, » murmura Didi. « C'est un coussin de chien. Elle dort sur un coussin de chien ?»« Ça y ressemble, » confirma Bobby. Et qu'est-ce que c'est que ce délire sur ses bras et ses jambes ? Didi avait réussi à se rapprocher un peu et remarquait une multitude de coupures rouges récentes et d'anciennes cicatrices argentées qui s'entrecroisaient sur les membres de la fillette. Didi compta une dizaine de marques rien que sur une jambe sale. Il semblait que quelqu'un s'en était pris à l'enfant avec un rasoir, et pas qu'une fois. « Pitié, dites-moi que quelqu'un a prévenu les services de l'enfance, » murmura Didi. Avant de s'apercevoir que cela n'avait aucune importance. Plus maintenant, en tout cas. Bobby et elle se glissèrent hors de la chambre, contournèrent le corps de l'adolescent et se dirigèrent vers la dernière chambre. Elle était à peine plus grande que la première. Un lit double collé au mur, un vieux berceau en bois posé à côté du lit. Bobby s'immobilisa. « J'y vais, » dit Didi, « j'y vais. » Elle le laissa sur le pas de la porte, se dirigea droit vers le berceau et regarda à l'intérieur. Elle s'obligea à prendre son temps, à lui accorder quelques minutes. Elle considérait cela comme un hommage aux morts, ne pas précipiter les choses, les observer, se souvenir d'eux, honorer leur mémoire. Et ensuite coincer le fils de pute qui avait fait ça. Elle ressortit de la chambre et dit à voix basse, plus posée qu'elle ne l'aurait imaginé, Nourrisson, mort, pas par balle, étouffé, je crois. Il y a un oreiller sur son ventre. Fille ou garçon ? Demanda Bobby. Quelle importance ? Fille ou garçon ? Répéta-t-il d'une voix hargneuse. Fille. Allez, Bobby, on sort de cette maison. Il la suivit parce qu'il n'avait pas trop le choix dans une bicoque de cette taille. À chaque pas, il risquait de piétiner un indice ou, pire, un cadavre. Mieux valait ressortir dans la moiteur de cette nuit d'été. D'un commun accord, ils s'arrêtèrent devant la porte d'entrée, prirent un instant pour inspirer de grandes goulées d'air humide et lourd. Le volume sonore avait augmenté au bout de l'allée. Voisins, journalistes, fouineurs, rien de tel qu'une scène de crime au mois d'août pour provoquer une petite réunion de quartier. Didier était écœurée, furieuse, découragée. Il y avait des soirs où ce boulot était trop dur. D'abord l'homme, ensuite la mère et les enfants ? Demanda Bobby. Pas d'hypothèse. Attendons que les petits génies des scènes de crime démêlent tout ça. Tu as reconnu Alex Wilson à l'intérieur ? Bobby fit signe que non. Il enseigne le traitement des scènes de crime à l'école de police et il suit notre unité ce mois-ci. Un type intelligent. D'ici demain matin, il aura des éléments à nous donner. Célibataire ? Demanda Bobby. Va te faire voir. C'est toi qui as commencé. « Comment ça ? Tu as dit qu'il était intelligent. Jamais tu ne penses qu'un homme est intelligent. »« Écoute, il fut un temps où je te croyais intelligent. Tu vois que je ne mets pas toujours dans le mille. »« Toi aussi tu me manques, » lui assura-t-il. Ils se turent tous les deux et repensèrent à la scène de crime. « Donc tu crois que c'est l'homme ?» demanda Bobby. « On n'a pas vu de drogue. »« Pas dans la maison, » reconnut Bobby. « Qu'est-ce que tu dirais qu'on vérifie à l'arrière ?» Ils vérifièrent à l'arrière, découvrirent une petite cabane en bois qui ressemblait plus ou moins à une remise. À l'intérieur, des ballots de marijuana empilés jusqu'au plafond. « Bonjour le dealer, » murmura Bobby. « Mais au revoir le règlement de compte, » tempéra Didi. « À quoi tu vois ça ?»« C'était quand la dernière fois qu'un dealer en a buté un autre sans même prendre son stock ?»« Si c'était une histoire de drogue, il y aurait zéro chance que ces ballots soient encore ici. » Peut-être que le concurrent ne les a pas trouvés. Elle lui lança un regard et consulta ostensiblement sa montre. On les a bien trouvés, nous. Et en moins d'une minute, je te signale. Bobby sembla dépité. Si ce n'est pas un règlement de compte, alors quoi ? Je ne sais pas. Reconnut Didi, troublé. Ils se turent un instant. Ta scène de crime, dit Bobby. Toutes mes excuses. Elle le regarda. Ses yeux gris impassibles, les épaules solides sur lesquelles elle s'était un jour laissée aller à pleurer. « Mon grand regret, » dit-elle. Ils refirent le tour de la maison. Bobby prit l'allée pour partir. Didi retourna sur la scène de crime.